Bien le bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue aux amateurs de sport. En ce jeudi, vous le savez, traditionnellement, quand c'est la semaine du Grand Prix, on peut dire que même si les bolides entreront en piste demain, ben, les festivités, c'est le coup de départ aujourd'hui, jeudi. Et avec qui d'autre amorcer cette émission-là, quelques heures après la confirmation officielle de ce qui va se passer dimanche en piste, et 24 heures après que je vous l'ai annoncé hier, Jacques Villeneuve est avec nous ce soir. Bonsoir, Jacques.
Bonsoir.
Content de t'accueillir en studio à Montréal. C'est un retour à la maison qui se passe bien, toi qui es au Canada depuis une bonne semaine déjà, là?
Ben oui, parce qu'avant, j'étais dans l'Ouest, Area 27, donc la piste que j'ai construite là-bas, pour voir un peu comment ça se passe. Donc, en venant à Montréal, c'est pas la porte d'à côté, mais non. Ça permet de faire un bon petit crochet.
Certainement. Et je pense que c'est une nouvelle qui fait plaisir à bien des gens que ce qui a été annoncé aujourd'hui. On le souhaitait. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses à attacher pour pouvoir l'annoncer. Jacques, donc, t'as accepté de piloter la Ferrari 312 T3 avec laquelle ton père a gagné en 1978. Et c'est la première fois que tu vas le faire ici à Montréal, au Canada. Je sais ce que ça représente pour nous, les amateurs. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Ça va être spécial parce que ça va être devant le public Formule 1, le public que je voyais lorsque je pilotais aussi. Ça va être génial de pouvoir vivre un peu les deux époques mélangées. Donc, il risque d'y avoir quoi? Des fans qui étaient là à l'époque de Gilles, leur fils, et peut-être à mon époque, leur petit-fils. Donc, ça va être un beau mélange.
Ben, quand on célèbre le sport automobile ici au pays, au Québec, au Canada, ben, on célèbre nécessairement le nom Villeneuve. Et champion du monde en 97, Jacques, c'est un grand moment dans l'histoire du sport. Et c'est évident que on t'a célébré bien sûr dans l'amphithéâtre dans les jours qui ont suivi ta conquête à Jerez. Mais à Montréal, les courses ne se sont pas toujours déroulées comme tu le souhaitais en piste. On n'a pas pu te célébrer en piste. Hein? Ça va être une occasion de le faire dimanche, je crois.
Oui, ça s'était bien passé en Formule Atlantique. J'avais gagné en Formule Atlantique.
C'est vrai? Ça,
c'était génial. Après les deux années où j'avais des bonnes voitures, 96, c'était correct. J'ai fini deuxième derrière mon coéquipier, donc c'était acceptable. 97, par contre, ça devait être une victoire facile. La voiture était vraiment vite. Et malheureusement, j'ai entamé le fameux mur des champions, où c'était marqué Bienvenue Québec et où par la suite plusieurs champions se sont écrasés.
Vraiment?
Oui, mais je sais pas, ils auraient pu mettre une décalque marquée Mur des champions, ça aurait été le fun, mais ils l'ont pas fait malheureusement.
Ils l'ont pas fait? Mais est-ce que
dans le jargon de la Formule 1, ça s'appelle le Mur des champions, ce mur-là, c'est, oui.
Et ça traverse les années, cette expression-là?
Oui, parce que c'était à la sortie de la dernière chicane. Schumacher s'est mis dedans, Damon Hill, moi je me suis mis une deuxième fois aussi, et je pense que Jenson Button aussi, donc c'était devenu le mur des champions. Et quand si un pilote se sort là maintenant, il dit ah ben c'est génial, je me suis sorti dans le mur des champions, c'est peut-être bon pour mon futur. Donc c'est comme ça que les circuits étaient nommés hein, par le passé. Il y avait des virages, des endroits c'était nommé pourquoi, parce que soit il y avait eu une action, il y avait quelqu'un, il y avait peut-être une église derrière un virage et ainsi de suite. Donc les virages étaient nommés, et comme c'est le cas pour une petite partie de ce mur-là.
C'était quoi le sentiment pour vous tous, les champions, futurs champions, ceux qui l'avaient déjà été, d'entrer, de perdre votre bolide à cet endroit-là précis de la piste? Est-ce que c'est encore le piège sur le circuit Gilles Villeneuve?
Oui, parce que c'est un virage facile, mais dans lequel on se fait piéger facilement aussi, où il n'y a pas le temps de réagir. Donc la petite erreur, c'est direct dans le mur et c'est gênant parce que c'est devant tout le monde, devant les mécaniciens. C'est le genre d'accident qui est juste un accident bête à éviter, mais qui coûte très cher parce que la course s'arrête là.
Peux-tu dire que s'il y a un accident où que tu pouvais effacer ta carrière, ce serait d'entrer dans le mur des champions, dans le mur du Québec?
Oui, mais en même temps, la course se serait mieux passée. Et donc, peut-être que psychologiquement, ça se serait passé différemment à les courses suivantes. Et peut-être que j'aurais pas gagné le championnat. Donc, il faut rien changer à une saison. Parce qu'un effet positif à moi peut après amener du négatif. Donc, faut faire attention. Faut rien toucher. Le championnat a été gagné. Donc, la saison a été parfaite. C'est tout.
Quelle est la réputation de ce tracé que celui du circuit de l'île Notre-Dame, le circuit Gilles Villeneuve? Toi, comment tu l'apprécies à travers... Tu sais, je sais que Spa-Francorchamps, par exemple, je pense que c'est la favorite ou l'une des favorites de tous, mais ici, Montréal, c'est classé comment par les pilotes et ex-pilotes?
Mais ça, déjà, pour ce qui est du week-end, il fait partie des meilleurs parce que les pilotes aiment venir ici. Le circuit est en ville où pratiquement les fans sont assis en bordure de piste, pas loin. Il y a un engouement dans la ville, c'est un peu la fête. Donc, les pilotes adorent ça. Et ils sont bien reçus aussi hein, par le public canadien, le public québécois. Vraiment, le Montréalais, ils sont très bien reçus. Pour ce qui est du pilotage, c'est une piste qui est géniale pour la course parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, que ce soit des accrochages, des dépassements, il y a toujours des surprises. Pour le pilotage pur, c'est pas un des plus intéressants parce que ce ne sont pratiquement que des chicanes ou des virages lents, donc des freinages, des changements de direction. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant au pilotage pur pour un tour de qualification, par exemple. Mais en course, il y a difficilement meilleur comme circuit parce que justement, ça permet pas mal d'action.
Et des dépassements à cause de l'épingle, le virage chaînant et...
C'est une piste qui permet l'audace, qui permet au pilote d'avoir un peu d'audace et de tenter un dépassement.
Ouais. Les pointes de vitesse, est-ce que c'est le circuit qui permet les plus grandes pointes de vitesse?
Non, Monza fait partie des plus grandes, mais Montréal, c'est dans le top 3 des vitesses de pointe. Et c'est vrai que c'est rapide, mais de toute façon, pour un pilote de rouler à 320 ou 360 en ligne droite, ça ne change rien. C'est en virage où les vitesses sont ressenties.
D'ailleurs, c'est drôle, ça me passait par l'esprit, je me disais, un gars comme Jacques Villeneuve ou un gars qui a conduit en Formule 1, là, si tu roules dans une voiture normale, sur une route normale, à 70 km/h, t'as-tu l'impression que t'es arrêté?
Oui, mais en même temps, quand il y a beaucoup de trafic, non, parce que ça conduit pas comme sur un circuit. Les voitures vont dans les deux sens et on n'est pas dans le même état de concentration de toute façon. On est concentré, mais pas avec de l'adrénaline. Il n'y a pas une recherche de compétitivité qui est sur la route. Donc, à ce niveau-là, non. Et lorsqu'on est dans une voiture de course, on n'a pas l'impression que ça va si vite que ça, justement parce que le focus est tel, et c'est notre métier, c'est ce qu'on fait du matin au soir. Alors que sur une voiture de route, avec tout ce qui se passe autour, en roulant moins vite, on a l'impression d'aller très vite.
Tu l'apprivoises, la vitesse, ça devient habituel finalement.
Ah, complètement. C'est triste, hein, parce que ce qui est excitant, au bout de 2 ans, le devient moins. Donc c'est un peu dommage.
On a remarqué à la conférence de presse aujourd'hui, ceux qui t'ont croisé dans les jours précédents, que tu nous reviens avec ton look 1997, championnat du monde. Tant qu'à souligner des moments importants, Jacques, y as-tu pensé quand t'as choisi de retourner, de revenir en blond finalement avant de revenir au Canada?
Écoute, même à l'époque, c'est jamais venu avec une grosse réflexion. Hein. Ça se passe généralement avec un coup de tête. Oui, en se réveillant le matin, ça serait le fun. Et je me suis toujours senti bien en blond. Donc je me regarde dans le miroir en blond et je me reconnais. Et c'était une belle période de toute façon.
Je sais pas si t'as remarqué, mais hier, RDS rediffusait la course de 97. Je sais pas si t'es tombé là-dessus ou t'avais trop de monde à voir en revenant à Montréal, là. Mais c'est toujours intéressant de revoir. L'as-tu revisionné beaucoup cette course-là?
Non, je revisionne pas les courses. Je vais revisionner parce que mes fils veulent voir quelque chose de... Peut-être quelques dépassements, donc des moments clés. Mais par exemple l'accrochage avec Schumacher et quelques accidents ceux de Spa, mais pas des courses entières.
Ouais. Tes enfants sont curieux? Parce que c'est spécial. Bon,
moyennement.
Pas tant que ça.
Non, parce que ils m'ont jamais vu faire de la course. Ils sont nés, je faisais plus de Formule 1, donc ils ont pas grandi avec cette image-là.
C'est drôle, pareil. Est-ce que ça pourrait faire de nous ramener sur la terre quand nos enfants, quand tes enfants finalement, tu sais, puis ça a été important dans la vie de tellement de gens de te rendre compte que finalement tes propres enfants, bof, tu sais.
Non, parce que jamais je me suis dit que ça devait être autrement. Jamais je me suis mis dans la tête que pour eux je devais être cette star, ce pilote ou non, c'est pas quelque chose qui était important pour moi. Peut-être quand on est père, on veut juste que nos enfants nous respectent et ça s'arrête là, mais s'ils m'avaient vu piloter, ça serait différent.
Ouais. Et qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient papa dans un bolide avec un casque qui a une collision avec Schumacher? Je veux dire, quel effet ça leur fait, tes enfants, de voir ça?
Aucune idée, c'est pas quelque chose.
T'en parles pas vraiment?
Non, c'est pas quelque chose qui fait partie des discussions. Ils jouent au hockey, donc ils sont plus là-dedans.
C'est une enfance totalement différente de la tienne.
Complètement. Puisque moi quand je suis né, mon père était quand même très jeune. Et on vivait dans une roulotte pour qu'il puisse faire de la course. Donc on a vécu toute cette évolution. Mes enfants, moi, ils connaissent l'après.
Mm-hmm. On a lu avec beaucoup d'intérêt une lettre que tu as signée dans le Journal de Montréal ce matin, et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'échos, et pas seulement de gens du Québec, là, mais même d'outre-mer, de l'entrevue que tu nous accordais l'an passé. Parce que je te le disais, puis je veux pas reproduire l'entrevue de l'an passé, pas du tout, là, mais le fait que je te le disais, je me rappelle comment je t'avais amené ça. Je dis, coudonc, Jacques, on a l'impression que le sujet Gilles, c'est un sujet délicat, qu'on est sur la pointe des pieds. Et j'ai senti dans la lettre que tu as rédigée avec l'aide du journaliste Louis Butcher, que probablement que, je sais pas comment c'est venu, mais t'as peut-être toujours eu conscience ou t'as pris conscience du fait que il y avait toujours une incompréhension des gens qui adorent les Villeneuve par rapport à la relation que t'entretenais avec le sujet ou avec celui qui finalement nous a quitté.
Non, j'en ai toujours été conscient parce que c'était mon père. Donc,
mais de l'incompréhension des gens.
Mais ça, je l'ai toujours vu parce que le fanatisme n'a pas de logique non plus. Mm-hmm. Donc, dès que tu as quelqu'un de très fanatique, tu peux pas avoir une réelle conversation constructive. La réflexion n'est plus là. Et ça, tu le vois à tous les niveaux. Tu le vois dans tous les sports. Tu le vois en amour. Tu le vois à quel que soit le niveau. Le cerveau, il déconnecte et la logique n'existe plus. Donc, ça, tu le sais. Et là, tu te rends compte que ça ne sert à rien d'avoir une conversation et en plus d'énerver ton interlocuteur, la personne qui est en face de toi, parce qu'elle ne va pas vouloir comprendre ce que tu essaies de lui expliquer.
Les gens n'entendent pas ce que tu dis ou n'entendaient pas. Mais ce que je trouve
intéressant. L'entendent, mais ne collent pas les bouts ensemble.
Mm-hmm. Et ce que je trouve intéressant de la démarche, puis je dis pas que c'est ça qui l'anime, mais sens-tu que les années, veux pas, t'es père de famille, tu vieillis, t'as ce contact-là avec les gens, je veux dire, te permettent de mieux l'exprimer. Ce que tu ressentais par rapport à ça qui a indisposé.
Non, c'est aussi le regard des gens a changé aussi. Oui. Ils sont plus prêts à accepter ce que j'ai à dire. D'avoir gagné le championnat, ça a déjà ouvert la porte à cette compréhension.
Et quand est-ce que tu as remarqué ça? Donc, depuis 97, tu as vraiment senti... Donc, pour toi, la signification de 97 du championnat, là, c'est pas à moi de te mettre des mots dans la bouche, mais qu'est-ce que ça a signifié, peut-être même au-delà? Qu'est-ce que ça a signifié tout court?
Ben, c'était mon but. C'est simple. Depuis que j'avais 5 ans, je savais que j'allais faire de la course automobile. Et donc, le but est quoi? D'être champion du monde. Donc, de la même manière où il n'y avait pas d'autre solution dans la vie pour moi que de faire pilote de course, il n'y avait pas d'autre option non plus que d'être champion du monde. Donc, la question ne se posait même pas. Ça semble bête à dire maintenant parce que c'est pas assez proche qu'il n'y ait pas de championnat. Mais dans mes réflexions, il n'y avait pas de possibilité qu'il n'y ait pas de championnat.
Qu'est-ce que ça aurait représenté? C'est tout à fait hypothétique parce que ça s'est pas produit, mais t'as-tu déjà pensé au cas où tu l'aurais échappé, ce championnat-là?
Ah, ça aurait été affreux. Je pense pas que... Ça aurait été difficile de garder ma positivité. Non, c'était primordial. C'était un but et il fallait à tout prix qu'il soit accompli.
Jacques, c'est le temps de s'arrêter pour une pause. On va revenir dans un instant, mesdames, messieurs. Quelques messages publicitaires. On est de retour pour la suite de cet entretien avec Jacques Villeneuve. De retour aux amateurs de sport avec Jacques Villeneuve. Jacques, c'est intriguant ce que ça va donner comme résultat en fin de semaine à Montréal. 6 courses de disputées. Il y a 3 pilotes qui se séparent. 6 victoires. Ricciardo, Vettel, Hamilton. Certainement l'une des saisons les plus intéressantes qu'on ait vues en Formule 1 depuis un certain temps. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est la plus intéressante. C'est la première où on a 3 équipes, 6 pilotes qui peuvent vraiment se battre pour le championnat et pour gagner des courses. On a toujours eu la Mercedes. Et en même temps, de temps en temps, une Ferrari pouvait se battre. L'année passée, elle était capable de se battre, mais elle était un peu en dessous de la Mercedes. Avec un peu de chance, la Red Bull. Alors que cette année, non, les 6 pilotes peuvent se battre.
Il y en a beaucoup qui parlent de l'éclosion de jeunes pilotes français. Es-tu attentif à leur progression? En vois-tu devenir de futurs aspirants à un titre ou à un des gros volants de la F1?
Déjà, il y a eu beaucoup d'attentes pour Ocon, mais qui doit encore faire un petit step, hein, qui doit battre course après course Perez pour démontrer qu'il mérite une place chez Mercedes, par exemple, parce que lui, c'est un protégé Mercedes. Un pilote que j'aime beaucoup, et d'habitude, j'ai des difficultés avec les pilotes qui arrivent jeunes parce qu'ils n'ont pas encore pris leur marque, c'est pas encore des hommes, c'est encore des enfants en train de grandir, bien Leclerc, Charles Leclerc, qui au lieu d'être un petit enfant, c'est un petit bonhomme. Je sais pas si ça représente ce que je dis, mais on voit qu'il est en train d'évoluer, qu'il a la tête sur ses épaules.
Il voit un peu plus loin.
Oui, que c'est pas un petit bébé gâté, qui voit un peu plus loin. Et donc, l'évolution et l'éclosion de son talent peut être très, très, très bon.
Devenir à Montréal pour les gens du monde de la Formule 1, qu'est-ce que ça représente en dehors, bien sûr, de tout ce qui occupe? Je sais que tu l'as souvent répété, c'est une grosse job d'être pilote puis dans une écurie, puis il n'y a pas tant de place au divertissement que ça. Il y en a qui arrivent un petit peu avant. Je sais que quand Gilles, à l'époque, il revenait, bon, il y en a plusieurs de ses amis qui allaient dans les camps de pêche, puis lui, il allait faire du motocross, puis du 4x4, puis tu sais, il allait rouler dans le sable. Toi, qu'est-ce que tu faisais quand tu revenais ici pour un Grand Prix et les autres pilotes, encore aujourd'hui, quelles sont les activités? Qu'est-ce que les gens veulent faire quand ils reviennent au Canada, à Montréal?
Ah, mais le milieu de la course fait très peu. Il arrive quelques jours avant la course et c'est déjà dans le travail. Il faut se mettre dans le fuseau horaire, donc c'est pas des vacances. Surtout maintenant, il y a 21 Grands Prix. Donc, c'est triste à dire, mais c'est de prendre l'avion. Peut-être il va y avoir un ou deux restaurants, mais ça se limite à ça. C'est pas très excitant. C'est plus excitant pour les fans qui font le voyage, qui viennent s'amuser sur un week-end de course. Là, oui. Là, ceux-là, ils vont pouvoir profiter de la ville.
OK. Toi, tu n'avais pas les gens, les pilotes, tu ne demandais pas, genre, qu'est-ce que je dois faire si je vais là? Tu ne devenais pas le guide là, des
non, autres pilotes? Non. Les époques avaient changé. Ça, c'était fini. Parce que de toute façon, jusqu'à quelques jours avant le début de ce week-end de course, il y a du travail médiatique à faire, peut-être en Europe, peut-être ailleurs. Donc, il y a pas l'espace pour prendre 10 jours et on va aller s'amuser au Canada. Non, ça n'existe plus. Ça a tellement évolué parce que avant, un pilote parlait avec un ou deux ingénieurs, passait son week-end et ne se souciait pas trop de l'agenda général de l'équipe. Mais maintenant, c'est comme des meetings, hein, avec 30, 40 ingénieurs. Tout le monde doit parler. C'est de telle heure à telle autre heure, précisément. Et un pilote travaille très mal comme ça. Mais c'est devenu la norme. Et c'est devenu tellement technologique, électronique, les Formule 1, qu'il y a beaucoup de choses à préparer, à mettre en place, à vérifier, à essayer de comprendre.
Donc, on a une année très divertissante à venir jusqu'à maintenant. Crois-tu que c'est une course dont le résultat pourrait faire la différence dans la suite des choses, ou ça va être comme ça, on va maintenir un suspense jusqu'à tard dans la saison?
On va maintenir un suspense. Hein. Ça s'équilibre toujours. Hein. La malchance pour l'un, ensuite pour l'autre. Ça s'équilibre sur la longueur de la saison, et au moins jusqu'aux vacances d'été. On va rester comme ça un peu dans le flou total sur qui vraiment a la meilleure chance.
Comme pilote, Jacques, même si tu n'as pas eu l'occasion de remporter la course à Montréal en F1, mais bien en Atlantique, quels sont tes beaux souvenirs des Grands Prix de Montréal auxquels tu as pris part, et même après ça avec British American Racing?
La course, c'était toujours le fun. Grand Prix de Montréal, c'était pénible. Hein, quand il y avait tellement de travail médiatique à faire avant que déjà le vendredi matin, j'étais épuisé, avant même d'avoir fait un tour de piste. Donc ça, c'était... Ça enlevait une partie du bonheur et du fun d'être à Montréal. Je préférais revenir quand il n'y avait plus de Grand Prix dans l'année. Là, c'était bien plus plaisant parce qu'il n'y avait pas tout l'engouement du Grand Prix. Mais pendant le week-end de course, en dehors de la voiture, c'était compliqué. Mais les courses étaient toujours le fun. Même si en bout de ligne, le résultat n'était pas génial, les courses étaient vraiment, vraiment excitantes.
Hey, je me rappelle, Jacques, tu étais vraiment au sommet de ta gloire comme pilote actif à ce moment-là. Et ça faisait la file pour des entrevues. Est-ce que tu te sentais comme une petite boule dans une machine à boules, dans une expérience comme celle-là? Comment te sentais-tu?
T'es un peu passager, hein? T'es un peu passager des événements. Tout se passe et on t'amène du point A au point B et tu réfléchis pas trop. Donc tu te réveilles en sachant que c'est ton travail. Et si tu réfléchis trop, t'es épuisé parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc oui, non, t'es passager des événements.
Et je voulais te demander, et je fais un petit peu de coq à l'âne, mais on a souvent parlé dernièrement des relations avec les voitures, et je parlais de la relation parce qu'on a parlé de la 312 T3 que tu vas conduire dimanche. Mais toi, est-ce que la voiture, la monoplace avec laquelle tu as eu cette relation-là, la meilleure, est-ce que c'est la Williams avec laquelle tu as gagné ton championnat du monde ou pas nécessairement?
Oui, parce que quand on gagne des courses, on est de bonne humeur, de toute façon, et on aime la voiture. C'était une voiture qui était quand même piégeuse, difficile à régler, difficile à piloter, mais elle était construite autour de moi, donc elle m'allait comme un gant. C'est pour ça que c'était le fun. C'est pour ça que j'étais capable, en qualification, t'entends vraiment à sortir les tripes de cette voiture-là, parce qu'elle réagissait. On était en osmose. Mais après, au fil des années, il y a eu d'autres voitures qui étaient plus performantes, qui étaient vraiment grisantes, mais c'était jamais pour se battre aux avant-postes. Donc, même si c'était des tours de qualif limite poussés qui permettaient de faire des bons chronos, il en manquait toujours un petit peu.
Quand tu dépasses Schumacher à Jerez, là, puis que t'espères que ta voiture puis la mécanique tiennent jusqu'à la fin, là, est-ce que tu lui parles à ta voiture?
Non, je lui parle pas, mais par contre, j'étais concentré comme jamais pour être le plus doux possible avec mon pilotage, pour pas mettre d'à-coups, éviter les vibreurs, les coups de frein, juste au cas où, juste en prévision.
Jacques, le Grand Prix s'amorce officiellement demain, alors j'espère que tu vas passer une belle fin de semaine, et merci encore, j'ai très hâte de voir. T'es-tu conscient à quel point... Je sais que tu es un cérébral, tu nous l'as dit. Hein? Tu ris, au moins je trouve ça drôle que tu ris quand je te dis ça, mais es-tu conscient que ça va faire plaisir à beaucoup de gens?
Oui, bien sûr, parce que c'est Gilles a quand même marqué le Québec, le Canada, et a écrit le début de l'histoire de la course automobile au Canada. Donc, pour certaines personnes, ça va être un souvenir incroyable. Je pense pour les générations teenagers, moins, sauf s'ils sont dans des familles où les grands-parents en parlaient et de leur passion lorsqu'ils étaient jeunes. Mais il y a quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur le circuit quand même qui vont vivre ce moment, qui vont se rappeler 78.
Et les plus jeunes, ben, c'est une occasion pour eux d'apprendre, parce que c'est important. C'est marqué sur nos plaques d'immatriculation, Jacques, là, je me souviens. Fait qu'à un moment donné, ça fait partie de l'histoire. Et j'en ajoute une autre, parce que tu disais dans une entrevue qu'on réalisait que la victoire de 78, c'est un scénario hollywoodien, en quelque sorte. Tu dis, Gilles a écrit là, les pages importantes du début du sport automobile ici. Tu as écrit d'autres pages immensément importantes avec ta victoire à Indianapolis, avec ta conquête.
Il faut espérer que ça soit pas la fin de l'histoire, la fin du livre. Il faut qu'il y en ait d'autres. Il faut qu'il y ait d'autres pilotes canadiens qui arrivent, qui se mettent à gagner des courses. C'est important.
Tu le souhaites, t'aimerais ça? Lance, peut-être? Peut-être un autre? Peut-être Latifi? En vois-tu d'autres pointer à l'horizon?
Pour l'instant, on n'a pas vu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espace pour commencer, pour se lancer au Canada. Je ne sais pas comment un jeune fait pour commencer la course automobile au Canada aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Il y a un vide total, donc c'est compliqué.
Mais c'est ton souhait.
Ben, c'est important. C'est génial. Une belle histoire. Des romans ont été débutés avec Gilles. Il ne faudrait pas que ça s'arrête.
Mais je reviens pour conclure au scénario hollywoodien. Comment se fait-il que ton histoire, l'histoire de Gilles, ou peut-être votre histoire, je ne sais pas si c'est la même histoire, il y a certainement moyen, comment se fait-il que ce ne soit pas encore sur un écran de cinéma, ça, cette histoire fabuleuse-là, que l'histoire des Villeneuve ou l'histoire de Gilles, l'histoire de Jacques?
Bonne question. Peut-être parce qu'on n'est pas américain, déjà. Donc, la porte hollywoodienne n'est peut-être pas la même.
Penses-tu que ça le mérite? Moi, je pense que oui.
Oui, là. Parce que je pense qu'il y a une histoire sociale. La course, c'est secondaire. Faire une histoire de course, là, c'est banal. Il y en a eu plein et c'est impossible de mettre ça bien à l'écran. Même si on regarde le film avec Rhoda et Rush Hunt, oui, il y a de la course, mais c'est une histoire sociale avant tout. Et c'est ça qui est important. Et si on regarde le début avec Gilles, il y a une belle histoire.
Ça serait quoi ton résumé? Tu sais, quand tu regardes dans le téléhoraire, le résumé de cette histoire-là?
Qu'il faut avoir des rêves. Qu'il faut avoir des rêves et il ne faut pas avoir peur d'essayer de les atteindre. Même si ça va contre le courant, même si ça va contre les attentes, ce que les gens croient, même si les gens essayent d'arrêter ce courant, justement, dire « Mais voyons, on arrête de rêver, tu te prends pour qui? » C'est important. Sans rêve, nous ne sommes rien.
Parce que c'est pas tout le monde qui croyait en ton rêve.
Oh, très peu y croyaient. Très, très peu. Et comme le rêve de Gilles, hein, très peu y croyaient aussi.
Vous avez plusieurs dénominateurs en commun et pas seulement le nom de famille, hein?
Ah, ça doit être dans les gènes.
J'imagine. Aïe, aïe, aïe. Jacques, je te remercie beaucoup. Bon week-end de Grand Prix.
Apparemment.
Merci d'avoir été là.